Good Morning Business, le grand débat.
À 8h38, beaucoup de sujets, vous l'avez vu dans le grand débat. On va commencer néanmoins par le débrief de l'interview de Luca De Meo qui était avec nous sur ce plateau il y a encore quelques minutes. On est avec François Chollet, le président de Montségur Finance, Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil, et Anthony Morel, qu'on ne présente plus. On va tout de suite partir chez Sia Partner, retrouver Arnaud Aimé, qui évidemment est un spécialiste du secteur et qui a écouté évidemment Luca De Meo. Est-ce que vous avez été convaincu? Est-ce que ce remariage avec Nissan et Mitsubishi est un bon deal pour Renault?
Bonjour. Je pense qu'en tout cas c'était le meilleur deal qui pouvait être réalisé. Jusqu'à présent, on était en fait au milieu du guet, c'est-à-dire que il y avait une alliance avec Nissan, mais qui fonctionnait pas bien, et même si Renault avait la majorité, une majorité du capital de Nissan, l'alliance n'arrivait pas à fonctionner, il n'y avait pas toutes les il n'y avait pas les synergies qui étaient attendues. Donc ce qui aurait pu être pertinent, c'était peut-être une fusion complète à la manière d'un groupe Volkswagen, groupe Stellantis, qui sont des groupes intégrés, sauf que ça, c'était pas le cas et c'était devenu impossible de toute façon. Donc plutôt que rester dans un entre-deux avec cette alliance qui plaisait visiblement pas à la partie japonaise, il était nécessaire de trouver une nouvelle position stable avec un modèle de partenariat entre Renault et Nissan qui est pas un partenariat exclusif, c'est un peu des partenariats à géométrie variable. Donc en tout cas, ça me semblait la meilleure des solutions pour pouvoir à nouveau avancer parce que la situation de fait était bloquée.
François Chollet, il faut se souvenir quand même à quel point c'était difficile auparavant, à quel point l'alliance ne fonctionnait plus.
Oui, ça ne fonctionnait plus. Et puis, encore une fois, il y a le sujet de Carlos Ghosn, des dirigeants de Renault, qui avaient mis, évidemment, la relation avec les Japonais dans un état qui était plus supportable pour les Japonais. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai écouté ce matin votre interview, et j'ai trouvé que l'approche extrêmement dépassionnée, pro-business, ouais, qui consiste à dire à son partenaire, eh bien, écoutez, voyons ce qu'on peut encore faire ensemble d'une façon équilibrée, et dans une relation de confiance qui se renoue, essayer de recréer une approche vraiment dépassionnée de cette relation, ouais. Je pense que c'est plutôt positif. Moi, je regarde l'arrivée
de... Le fait qu'il soit italien était aussi un atout, parce qu'on dépasse... Vous avez vu, regardez, la conférence de presse s'est faite à Londres, et on a un patron italien, ça sort... Peut-être que c'était nécessaire, hein, d'ailleurs, hein, pour dépassionner le franco-japonais.
Je ne doute pas que le charme de Luca De Meo est opéré dans dans cette opération, mais il est clair que son arrivée à la tête de Renault, la façon dont il a pris le temps et repositionné le discours, les marques, la stratégie de l'entreprise, c'est salué par le marché, je pense, pour de bonnes raisons. Ouais. Il y a à délivrer derrière, mais clairement là, on est dans un chemin qui est assez balisé. Le titre ne valait plus rien sur les marchés, hein. Vraiment, c'était, je sais plus dans quel ratio on pouvait être, mais 0, quelque chose soit le chiffre d'affaires, peut-être 0,10 ou 0,15, j'en sais rien. Aujourd'hui, on retrouve un semblant de confiance, on retrouve en tout cas un chemin stratégique, et je crois que c'est ce à quoi le marché adhère dans un contexte évidemment de difficultés. Le groupe montre en tout cas des forces, elles existent dans sa capacité à faire vivre cette nouvelle entité Ampère, à trouver des partenariats industriels pour l'animer, pour amortir les charges fixes de cette nouvelle entreprise. Et puis, encore une fois, on a eu une destruction créatrice industrielle incroyable dans ce secteur de l'automobile. Tesla a rendu obsolète l'ensemble des installations de constructeurs automobiles du passé. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. On était confiants sur des Volkswagen qui étaient dans des positions, évidemment, avec les moyens de franchir cette étape structurelle. On était peut-être un peu moins en sécurité avec un acteur comme Renault. Clairement, là, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. On espère juste le succès de cette stratégie.
Sur l'avenir, il a été très clair, hein, Luca De Meo. Hein, il veut des voitures rentables, focus sur les marges et pas sur les volumes. Juste, on va le réécouter et après, je vous donne la parole, Éric Delannoy.
On gagne plus d'argent en vendant 2 millions de voitures de ce qu'on gagnait quand on en vendait plus de 3 millions. Point numéro un. Donc, on a fait une stratégie qui est plus orientée aux valeurs, à chercher la génération du cash, la profitabilité. Ça marche plutôt bien. Et il y a une chose à dire, c'est que l'alliance, en gros, et le contrat qu'on a fait, sert justement à être partie d'un écosystème qui nous permettra de faire de l'échelle et des synergies.
On peut survivre, Éric Delannoy, avec effectivement 2 millions de véhicules vendus. Enfin, il nous a dit, Luca De Meo, qu'il allait en vendre plus dans les prochaines années. Mais ça suffit par rapport à des géants qui en vendent 10?
Alors, ça suffit, ça dépend des conditions de marge. A priori, il ne va pas s'arrêter à 2 millions de véhicules.
Non,
moi, ce que je note quand même, hein, c'est qu'on a beaucoup utilisé la métaphore ce matin du divorce, du remariage, etc. On ne divorce pas bien quand on humilie son conjoint. Donc, la fin de l'humiliation de Nissan, quand même, ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn et toute l'histoire qu'il a vécue, c'était nécessaire de repartir sur des bases saines en termes de gouvernance. Une entreprise ne fonctionne jamais, quel que soit son actif industriel, quand la gouvernance ne fonctionne pas. Or, une gouvernance plus faible, parce qu'on peut considérer quand même, je pense que c'est les propos des détracteurs aujourd'hui, que la gouvernance nouvelle est une gouvernance plus faible par rapport à ce qu'avait Renault avant vis-à-vis de Nissan, elle va s'appuyer sur un actif industriel plus fort. Parce que la lisibilité stratégique aujourd'hui de Renault est une lisibilité stratégique qui n'avait jamais été aussi clair avec une séparation de l'électrique avec le reste du monde. On parle des véhicules électriques, on parle de Tesla. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Tesla a rendu obsolète l'ensemble des... Enfin, je veux dire, on vend encore plus de beaucoup plus de voitures thermiques dans le monde que de voitures électriques. Tesla, c'est juste 1 million de véhicules, faut bien le rappeler, hein. Donc, mais néanmoins, donc il y a des marchés qui vont être séparés et avec des actifs industriels et une clarté stratégique qui n'a jamais été aussi élevée de manière extrêmement dépassionnée. Anthony, moi, à ce titre-là, je pense que c'est un très bon deal.
Non, c'est vrai, Tesla n'a pas ringardisé complètement la voiture thermique, mais a quand même aiguillonné le reste du secteur, dont Renault-Nissan. C'est ça qui est intéressant, à la fois sur la voiture électrique, mais aussi sur les questions technologiques. C'est-à-dire l'idée selon laquelle la voiture, maintenant, c'est un smartphone sur roue, pour reprendre l'expression.
C'est ce qu'il a dit, Luca
de Meo. Mais c'est vraiment, on est en plein dedans. Et Renault travaille depuis très longtemps avec Google sur la partie cloud, sur la partie jumeau numérique. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Et ça va faire partie, je pense, de la stratégie de Renault là, dans les années qui viennent. Ça va être un point très très important.
Et l'avenir, Arnaud Aimé, clairement, c'est des partenariats industriels géographiques au cas par cas, des partenariats industriels avec tout un tas de partenaires dans les semi-conducteurs, dans l'intelligence artificielle. C'est vraiment du cas par cas, à coup de projet, quoi, Arnaud Aimé.
Effectivement, à la carte, vous parliez des 2 millions de véhicules produits par Renault. C'est vrai que ça en fait un des plus petits constructeurs historiques maintenant, surtout qu'il a été amputé du marché russe l'année dernière, qui était le deuxième marché pour Renault jusqu'à présent après la France, et où il vendait non seulement des Lada mais aussi beaucoup de Dacia. Donc il y a un volume qui est devenu plus faible. On est dans une industrie qui, pour laquelle les économies d'échelle sont importantes vu les investissements initiaux. Cela dit, à l'heure où les disruptions, disons, se multiplient sur le secteur, le véhicule électrique, le logiciel, on en parlait à l'instant, l'irruption aussi de nouveaux entrants, on parle beaucoup de Tesla, mais aussi les constructeurs chinois qui prospèrent dans leur pays d'origine, mais qui attaquent maintenant le marché européen aussi. On l'a vu au Mondial de l'Auto l'année dernière. À l'heure de la disruption, peut-être que les économies d'échelle sont un petit peu moins décisives. Il s'agit surtout d'être agile et de sortir rapidement des nouveaux produits et des nouveaux services. Cela dit, il n'est pas possible de le faire seul. Donc, il faut des partenariats à géométrie variable. Il y a un partenariat renouvelé avec Nissan. Et il y a de l'amour qui est prononcé. Maintenant, il faut encore voir les preuves d'amour avec Nissan. Mais c'est aussi avec d'autres types d'industriels. Vous parliez tout à l'heure de Google pour le logiciel, mais c'est aussi avec Qualcomm, qui est un géant américain de l'électronique et des puces avec lesquelles Renault veut collaborer. Aramco, qui est avec Geely pour développer encore le thermique, puisque le véhicule thermique a un avenir dans les pays qui sont moins contraints par la réglementation que l'Europe. Je pense une partie de l'Asie, je pense à l'Afrique aussi. Voilà, donc il y a des partenariats à géométrie variable. Et ce qui va être complexe pour Renault, c'est de gérer plusieurs partenariats à la fois, plutôt qu'un seul exclusif avec Nissan, mais bon, qui marchait moyen de toute façon. Et des partenariats à géométrie variable sans froisser non plus la liste Nissan. Nissan pouvait avoir des réserves. Avec un partenariat comme avec Google ou Qualcomm par exemple sur du partage de propriété intellectuelle, du partage de données. Donc ça va être beaucoup plus subtil à gérer pour Renault.
Merci beaucoup Arnaud Aimé. Allez, deuxième sujet de notre grand débat, c'est justement, il n'y a pas un jour où on ne parle pas de chat GPT. Tout le monde en parle, tout le monde sait ce que c'est maintenant, ouais. Ce moteur d'intelligence artificielle qui est un peu annexé par Microsoft et son moteur de recherche Bing qui va bientôt l'intégrer. Google, ça l'a agacé, hein.
Ah oui, ils ont contre-attaqué et très rapidement, ils ont fait hier l'annonce de Bard. Alors Bard, BRD, c'est leur réponse à chat GPT, c'est un chatbot, hein, un peu la même chose. Donc en gros, on lui pose une question, il répond, et qui va être intégré au moteur de recherche Google. Ça va être très intéressant. Donc en gros, quand vous poserez une question simple, du genre, je sais pas moi, combien de touches à un piano, bah, c'est le moteur de recherche qui vous répondra. Mais si vous posez une question plus complexe, est-ce que c'est plus compliqué d'apprendre le piano ou la guitare? Là, c'est Bard qui répondra en faisant une petite synthèse, en vous proposant des liens Internet. Donc ça va être intégré dans le moteur de recherche, première chose. Deuxième différence avec ChatGPT, c'est que ce sera connecté à Internet. Donc il n'y aura pas une base de données qui sera limitée à 2021 comme c'est le cas pour ChatGPT. On pourra lui poser des questions d'actualité. Et ce sera limité dans un premier temps à un cercle assez restreint de testeurs avant d'arriver dans le grand public. L'idée étant d'éviter les écueils. ChatGPT, on lui reproche beaucoup de dire beaucoup de bêtises, mais avec beaucoup d'assurance. Google voudrait éviter cet obstacle-là. Mais l'enjeu, évidemment, c'est de concurrencer ChatGPT, qui, je le rappelle, est le produit technologique qui connaît l'adoption la plus rapide de l'histoire. C'est-à-dire, c'est plus rapide que TikTok, plus rapide qu'Instagram, plus rapide que tout. 100 millions d'utilisateurs en deux mois.
La révolution de l'intelligence artificielle, Eric Delanoë, vous voyez que ça commence, c'est un leurre, on part dedans la tête baissée. Vous voyez ça comment?
Moi, je trouve qu'il n'y a rien de très nouveau dans tout ça, finalement. Enfin, objectivement, bah, ça
quand fait... même, vous ne l'avez pas testé?
Mais non, enfin, alors si, je l'ai testé. Mais ce que je dis, ce qui n'est pas très nouveau, c'est que ça fait 15 ans qu'on parle du big data et on est sur l'avènement du big data dans le quotidien. Bon, donc, enfin, je veux dire, le fait d'exploiter par des puissances de calcul des bases de données gigantesques, puisque je crois que Wikipédia représente 2% des bases de données utilisées par ChatGPT, enfin, c'est effectivement quelque chose qui était attendu.
Anthony, ouais,
c'est ça, c'est Wikipédia en plus moderne.
C'est attendu. Je pense que c'est un peu ça pouvait dire ça, parce que là, le gros avantage de ChatGPT, c'est de proposer un outil qui est utilisable par le grand public et qui utilise la puissance que vous décrivez là. Ça n'existait pas jusque-là.
Mais vous imaginez bien que ça allait arriver.
Enfin, je bien
même
sûr.
Titre que on évoquait tout à l'heure avec Monsieur Dimeo, le fait que la voiture se comporterait comme un smartphone, ça fait 20 ans qu'on en parle que la voiture se comporterait comme un smartphone. Je veux dire, aujourd'hui, on a l'impression que tout est à réinventer, qu'il y a des révolutions dans tous les sens. Moi, je rappelle quand même qu'il y a des études qui ont montré ça. Quand il y a eu l'avènement du big data, on avait estimé que 50% des métiers étaient menacés en 2010. 22 ans plus tard, parmi ces 50%, il y en a encore 48% qui existent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une inertie dans tout ça. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est la révolution de l'enseignement. C'est qu'est-ce qu'on va faire de l'esprit critique et de tout ça. Quand j'entends que ChatGPT est capable de dire de manière très péremptoire des énormes âneries, ce qui est en fait aujourd'hui la norme dans le monde politique, par exemple, je veux dire, ça m'inquiète beaucoup sur ce que va devenir l'enseignement. Maintenant, pour le reste, enfin, je veux dire, on est sur l'amélioration de l'accès à l'information et des interactions qui vont un peu changer.
Il va y avoir aussi des gains de productivité qui vont être massifs dans plein de domaines, dans plein de métiers. Ça va, enfin, on le voit bien. Il y a des développeurs informatiques maintenant, ils demandent à ChatGPT de leur écrire du code. Bam, ils se retrouvent avec du code écrit ou corrigé. Ça peut être même nous, les journalistes. Enfin, je veux dire, vous lui demandez de vous écrire l'interview de Lucas Dimeo, il vous l'écrit. Ouais, il vous propose 10 questions. Moi, je l'ai fait.
Avec moins d'émotion, quand même.
Alors, avec sûrement moins de brio, moins d'émotion, mais quand même. Enfin, je veux dire, c'est des outils qui fonctionnent aujourd'hui. Il va y avoir vraiment des gains dans plein de métiers.
Oui, comme on l'a estimé, qu'il y aurait des gains sur l'interface homme-machine, sur le remplacement
vous
de
l'emploi. Vous n'êtes pas dupe, Eric.
Bah, en fait, non, parce que ce qui crée de l'émotion, c'est que pour une fois, c'est les professions intellectuelles qui vont être touchées. Mon Dieu.
Ça, c'est vrai.
Enfin, je veux dire, c'est pour ça que ça crée de l'émotion. Ouais. Enfin, quand il y a eu les chaînes de production qui étaient remplacées par les robots et que c'était des travailleurs qu'on allait mettre dehors et qui allaient être remplacés par des machines, il n'y avait pas tant d'émotion que ça. On parlait productivité, on parlait d'augmentation. Enfin, là, c'est les professions intellectuelles, vous rendez compte, elles sont atteintes aujourd'hui, alors qu'avant, elles étaient protégées. Donc forcément, ça crée l'émotion. Moi, je pense que ça va prendre beaucoup de temps, tout ça.
Allez, un petit mot des résultats, parce que c'est la saison et parce que BNP Paribas a publié ce matin. Alors, je suis sûr qu'il y aura encore un débat dans l'opinion publique. Cachez ce profit que je ne saurais voir. 10 milliards d'euros, 10,2 de bénéfices nets pour BNP Paribas, pour 50,4 milliards d'euros de produits nets bancaires. Faut s'en réjouir. Et en plus, c'est pas fini, parce que BNP dit qu'ils ont porté à la hausse leur prévision de hausse des bénéfices pour les 3 prochaines années.
Alors, la BNP est habituée depuis longtemps à faire des profits assez élevés. Ça fait longtemps que les BNP, on les commente autour de 8 milliards, etc.
Là, c'est un record.
Une très bonne année. Ouais. Un peu plus de 10 milliards pour la BNP. Le quatrième trimestre, il est bon. Il est un tout petit peu inférieur aux attentes. Ouais. Elles étaient assez élevées sur le consensus. Là où la BNP fait une bonne surprise, c'est qu'ils ont relevé leurs estimations jusqu'en 2025.
Exactement.
Ça, c'est plutôt un signal qui va être positif pour le marché. Il n'empêche, il faut saluer un certain nombre de choses. Le coût du risque qui est resté très mesuré. Moi, clairement, je ne pensais pas qu'on soit à 31 points de base dans un contexte économique comme celui que nous connaissons. Ouais. On peut saluer aussi que la cession de Bankwest ramène 3 milliards de plus-value, et c'est 16 milliards de dollars de cession pour Bankwest, mais encore une fois, des fonds propres extrêmement solides. Et donc, le dividende ne sera pas au niveau qu'on pouvait espérer en 2023. Il va rester stable. En revanche, une politique massive de rachat d'actions pour le groupe BNP, dès lors qu'elle sera validée par l'autorité de tutelle, qui va permettre effectivement de reluer aussi l'actionnaire. Je n'ai de cesse de le dire, aujourd'hui, les résultats de 2022 pour l'ensemble des entreprises, notamment européennes, sont excellents. Oui, ils vont donner lieu à des distributions de dividendes extraordinaires. Et pour masquer un petit peu, peut-être, ces distributions de dividendes extraordinaires, on va avoir beaucoup de rachats d'actions massifs sur le marché. C'est le cas avec la BNP.
François, on est avec Antoine Larigauderie qui nous attend à Euronext à Paris. Antoine, il n'y a pas une journée sans des résultats exceptionnels, clairement.
Oui, c'est vrai qu'on a un maximum de bonnes surprises en ce moment. Ce qui est intéressant dans les résultats du secteur bancaire européen, on l'a vu avec UniCredit et avec UBS notamment, c'est qu'on arrive, et les analystes le soulignent d'ailleurs notamment du côté de BNP Paribas ce matin, qu'on arrive à un niveau de dynamique, de rentabilité et de perspective qui est supérieur aux meilleures banques de Wall Street. Et là, il y a un écart qui est en train de se creuser, qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément dans l'air du temps depuis quelques années. Le secteur bancaire européen est en train de se redresser très très nettement du point de vue de la tendance, et c'est un facteur qui pourrait justement nous porter chance pour les mois à venir.
Peut-être avec une progression du CAC 40 aujourd'hui, on a un peu marqué le pas hier et on attend toujours de battre le record du CAC, même si quand on fait dividendes réinvestis, on a battu le record la semaine dernière, il faut le rappeler. 10 secondes, mais pas plus François alors.
Non, mais pour continuer ce que disait notre ami, c'est simplement pour dire que les valorisations des banques européennes sont encore extrêmement en retard par rapport aux banques américaines, et la cession de BankWest s'est faite à 1,7 fois la valeur de l'actif de BankWest. On en est très 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 loin, on est à moins de la moitié sur les banques européennes.